C'est la troisième apparition parfaitement comptabilisée par Saint Jean dans son évangile que nous avons lu ici. Un petit déjeuner en compagnie du ressuscité. Très bucolique, cette scène est pleine de poésie pour nous. Mais le contenu est vraiment très dense. Ça concerne vraiment cette fois-ci la vocation apostolique, la fondation de l'Église. Ici, ce n'est pas le chiffre 12 qui triomphe, puisqu'il a été amputé de toute façon avec la trahison de Judas. Mais c'est le chiffre 7 qui est le chiffre de l'Esprit-Saint, et l'Esprit-Saint, c'est cet esprit du Père et du Fils qui anime l'Église, qui nous communique la vie à nous tous, qui sommes les pierres vivantes de cet édifice spirituel. C'est l'Esprit-Saint qui est le sang qui est de nos âmes. Ils ont travaillé sans relâche pendant toute la nuit pour pêcher. C'est vrai, ils ne savaient pas quoi faire, là, dans cette période d'attente. Ils ne savent pas trop ce que veut exactement le Seigneur. Le Seigneur se manifeste, mais eux, ils sont quand même dans l'attente. Alors Simon-Pierre prend l'initiative, il propose d'aller pêcher, et donc 6 autres disciples le suivent dans cette activité. Toute la nuit, ils vont comme ça se distraire, s'occuper des mains, comme on dit, et des pensées. Mais sans rien prendre, parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et c'est valable pour l'Église de tous les temps, ça. L'Église doit toujours avoir le Christ au milieu d'elle et son esprit pour l'inspirer, sinon, de toute façon, ça ne sert à rien. 153 gros poissons, voilà ce qui se passe, une pêche miraculeuse dès que le Seigneur intervient. Et c'est au matin, quand la lumière se lève, la lumière est le symbole de Dieu, bien évidemment. Quand on recherche dans la Bible, c'est compliqué, 153 poissons. En fait, il n'y a qu'une seule mention que j'ai trouvée, c'est lors de la construction du temple ordonné par Salomon. Il y a le nombre des étrangers qui furent mobilisés par Salomon pour la construction du temple, à tous les niveaux, hein, transport des poutres, des pierres, décoration intérieure, les orfèvres, etc. Il a fait intervenir fondamentalement beaucoup d'étrangers. Et ils étaient au nombre de 153 600. Alors si on arrondit, il faut arrondir un peu. 153 000. Alors 153, le nombre des poissons ici, 1000, c'est un chiffre de bénédiction, une bénédiction totale. La bénédiction des œuvres de nos mains et de tous nos efforts. C'est un chiffre spirituel, les 1000 ans, vous voyez. Le millénium, après la première victoire d'Armageddon dans l'Apocalypse, où l'Église est tranquille pendant 1000 ans, ça veut dire que. Ça ne veut pas dire que le monde entier se convertit, mais ça veut dire que le monde accepte, tolère, respecte l'Église et son message, au moins. Une période de paix. 1000, c'est la paix, la bénédiction, donc. Le temple, c'est le thème, la construction du temple. Or, ici, ce qui permet de rapprocher ces deux nombres, c'est le fait qu'on est dans la construction de l'Église. Jésus est en train de préparer les fondements de l'Église. Alors si je veux interpréter à la lumière des 153 000 étrangers qui participèrent à l'édification du temple, ce passage, eh bien, ces poissons qui sont pris, les poissons, c'est bien ce que c'est, dans l'Évangile, ce sont les âmes que les disciples sont chargés de pêcher et de tirer hors des eaux de ce monde, pour les porter sur le rivage de la grâce et du salut. Eh bien, ce sont ces étrangers qui seront convertis et qui constitueront l'Église tout au long des siècles. Ces étrangers, pourquoi étrangers? Parce qu'au départ, nous sommes tous étrangers à la grâce et nous avons besoin du salut. Et l'Église est là pour réunir ces âmes et les tirer hors des eaux de ce siècle, dirait saint Augustin. Donc la mise en place de l'Église, voilà, 153, je l'interpréterai de cette façon-là. Tous ces païens qui sont convertis par le message évangélique. Les trois questions posées à Pierre, alors dans le contexte du conclave, dans le contexte du renouvellement du pape, d'une nouvelle élection, ça prend toute une densité, cette question-là. Pierre, m'aimes-tu? C'est la voix qu'entendra sans doute l'élu, en tout cas la nuit, au moment de son élection, à quelques moments que ce soit, je ne sais rien. Mais Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu d'abord plus que ceci? C'est d'abord une question liée au groupe des disciples. M'aimes-tu plus que ceci? Es-tu capable de dépasser l'amitié humaine ou le respect humain, ce que les autres de tes confrères vont penser de toi, pour écouter la vérité et ma volonté? Puis, seconde question, m'aimes-tu tout simplement, au sens absolu du terme? Et puis la troisième, c'est pareil, m'aimes-tu? Ces trois questions résonnent cruellement dans les oreilles de Pierre, nous le savons, puisque ça fait référence à ces trois reniements au moment de la passion, au moment de l'arrestation, et ce coq qui chanta trois fois. Et bien, les trois questions sont bel et bien là pour réparer ce que Pierre lui-même a détruit. Il a détruit l'amour à ce moment-là, il a renié celui qu'il aimait, ou qu'il croyait aimer vraiment, mais l'épreuve de la passion a montré que ce n'était pas le cas vraiment. Saint Jean, lui, n'a pas renié le Christ au moment de la passion, mais Pierre l'a fait. Et donc, trois, c'est aussi les trois facultés de notre âme. Donc c'est Pierre tout entier qui a, à travers ces trois reniements, renié le Christ dans son intelligence, dans sa volonté, et dans sa personnalité profonde, dans son âme. Et les trois questions de Jésus ont pour but de réparer. Ce n'est pas du tout une condamnation, ce n'est pas un jugement. Il s'agit de réparer ce qui a été blessé par l'infidélité de Pierre. Pourquoi Pierre a-t-il été infidèle à ce moment-là? Parce que il s'est préféré lui-même à Jésus. Il a préféré sauver sa peau. Il a eu peur du jugement des autres. Et globalement, il s'aimait lui-même avant d'aimer le Christ. Dans son intelligence, d'abord, parce que notre intelligence doit être convertie, elle doit être ordonnée à la vérité, dans la volonté, parce que notre volonté doit être mue par un amour qui nous dépasse, et enfin ratifiée par toute notre âme, par ce centre de notre âme qu'est ce que Augustin appelle la mémoire, la conscience profonde. Voilà les trois. Dans les deux premières demandes, c'est symétrique les termes utilisés. Jésus lui emploie le verbe aimer, agapao en grec, c'est-à-dire l'amour divin. M'aimes-tu d'un amour divin? Mais Pierre répond avec phileo, qui veut dire l'amour d'amitié qu'on éprouve envers les autres hommes, envers l'ami. Et agapao n'est pas à sa portée. Et à la troisième demande, Jésus rompt la symétrie en utilisant lui-même phileo. C'est-à-dire que la troisième demande, vous voyez, donc il y a la conversion de l'intelligence. Il faut mettre de l'agapé dans cette intelligence. Il faut l'ordonner vers la transcendance. De même pour la volonté, l'espérance qui est insufflée dans la volonté et qui la meut, cette espérance doit vraiment être reliée à l'en haut. Donc il faut de l'agapé, là encore. Et c'est Jésus, tout en posant la question, lui insuffle en quelque sorte cet agapé. Mais pour la troisième instance, Jésus nuance son discours et là il parle d'intimité, il parle de réciprocité, il parle d'amitié, filéo. Et c'est ainsi qu'il nous faut forcément interpréter cette rupture dans la symétrie des termes utilisés. Ensuite, il propose à chaque fois à Pierre de devenir le pasteur de ses brebis. Pour citer saint Augustin, lui, il commente de la façon suivante. Si en reniant le pasteur, Pierre donne la preuve de sa faiblesse, qu'il donne à présent la preuve de son affection en paissant le troupeau du Seigneur. C'est beau, saint Augustin saisit bien le renversement et la guérison. Que Jésus ne propose pas à Pierre de revivre la passion d'une façon digne, d'une façon aimante, c'est impossible de revenir en arrière. Mais il lui propose de se racheter. C'est en même temps la consécration, on est toujours dans un contexte ecclésial, hein, je le répète, même s'il est très bucolique, le contexte de la formation de l'Église. Et là, la primauté de Pierre est affirmée d'une manière évidente, même si c'est pas, on n'emploie pas le terme de primauté, mais c'est bien Pierre, et à travers Pierre, les disciples, les apôtres auxquels s'adresse Jésus. Et il leur dit, il dit à Pierre, « Suis-moi. » Le pasteur qui ne suit pas le Christ, qui n'est pas lui-même un disciple du Christ, eh bien celui-là est un mercenaire. Jésus le dénonce hein, dans l'évangile de Jean. Ceux qui ne sont pas, qui ne passent pas par la porte des brebis sont des mercenaires. « Je suis le bon pasteur, mes brebis écoutent ma voix. » Et il demande à Pierre eh bien, de suivre son exemple et donc de le suivre lui-même. De ne pas être un mercenaire. Qu'est-ce que le mercenaire? Jésus l'explique. Le mercenaire, c'est celui qui tire profit du troupeau, mais dès qu'il y a un danger, dès que les loups arrivent, eh bien, il s'enfuit, il laisse le troupeau parce qu'ils ne sont pas liés au troupeau, ils ne considèrent pas que le troupeau est à eux, ils n'ont pas... d'une grande conscience, le mercenaire. Il n'est là que parce que ça lui rapporte quelque chose. Et il faut être disciple pour devenir pasteur à la suite du bon pasteur. Donc dépasser l'amour de soi. Un pasteur est un véritable disciple eh bien, qui ne fait pas de ses opinions personnelles la norme de la vérité. Et c'est fondamental pour l'Église. C'est tellement facile pour un prêtre, pour un évêque, etc., etc., et pour un pape, eh bien, de mettre en avant ses propres opinions, ses propres certitudes humaines, comme Pierre au moment de l'arrestation. Il proteste, quand on veut arrêter Jésus, mais moi je te suivrai jusqu'à la mort. Il est authentique quand il dit ça, il est convaincu qu'il va le faire. Mais il se fie sur ses forces humaines, et ses forces humaines le trahissent, nous le savons. Et c'est ça le problème, c'est il faut vivre de la grâce, en particulier lorsqu'on est associé au pastorat du Christ pour l'Église. Il faut vivre de la grâce et pas de ces petites grâces à soi, de ces petites qualités. Non, il faut se détacher, il faut aller beaucoup plus haut. Alors, dans ce contexte, de conclave là, qui s'ouvre mercredi, eh bien, prions pour le pape à l'occasion de ce beau texte qui résonne et en harmonie avec les temps que nous vivons, que le Seigneur eh bien, suscite pour l'Église un bon pasteur.